messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Et voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9, c'est la matinale et ce matin on va vous parler d'un livre qui s'appelle La forêt dans tous ses états. On a en notre compagnie Bernard Debargue, je suis accompagné d'Oran, salut Oran.
Salut.
Alors je sais pas si j'ai lancé ton micro, salut Oran.
Salut.
On va souhaiter une bonne année aux auditeurs, c'est notre première émission matinale. On rappelle que t'as arrêté le journal.
Ouais.
Pour te consacrer à d'autres projets radiophoniques.
Ouais, maintenant je fais que des reportages long format, donc entre 8 et 15 minutes à peu près.
Qu'on retrouvera dans la programmation et également échanger avec nos amis de des radios du nord de la France, c'est bien ça.
Exactement.
Bernard, bonjour.
Bonjour les amis de Graphite.
Bienvenue, on est très heureux de t'inviter en tant que premier invité de cette nouvelle année, surtout pour parler d'un très beau livre qu'on attendait un petit peu avec impatience, puisque tu nous l'avais teasé quand tu étais venu les autres fois pour parler de la forêt. Et donc là, ça y est, on l'a dans nos mains, il y a déjà les 100 premiers exemplaires qui ont été vendus, principalement à la librairie des Signes, il me semble.
Oui.
Parce que tu as fait une séance de dédicace.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Et du coup, c'est Oran qui va se charger de l'interview. Alors, je te laisse en compagnie d'Oran.
Ah ouais, d'accord, ok, il me lâche comme ça, super. La première question, c'est pourquoi faire une enquête sur la forêt de Compiègne?
Alors évidemment, au-delà de la pratique du plaisir d'être en forêt, de se promener, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en connaissais pas grand-chose et que j'avais envie d'en connaître plus et que les informations qui étaient disponibles étaient souvent fragmentées. Alors que j'ai bien compris que la forêt était un milieu complet, complexe, qu'il y avait beaucoup d'interactions entre les actions en particulier des humains et la réaction de la nature, à la fois la partie végétale et la partie évidemment animale. Et j'ai été très curieux finalement de mener une enquête, d'aller chercher des preuves, d'aller chercher des indices, de les recouper, de relier tout cela pour comprendre effectivement quels étaient les liens entre les actions des humains et la situation de la forêt, qui est visiblement quand même assez endommagée en ce moment à cause du réchauffement climatique, mais pas que. Et donc ça a vraiment été un travail d'enquête long et passionnant.
Tu dis que tu la connais pas trop, mais enfin pour ceux qui te connaissent pas, t'es quand même peut-être c'est la personne qui connaît le plus la forêt de Compiègne.
Mais j'ai appris énormément pendant ce travail. En fait, la démarche est partie il y a un peu plus de 4 ans maintenant, parce que j'ai commencé à faire des photos. C'était surtout ma première activité, c'était de faire des photos de forêt, ce qui en soi est assez banal, mais surtout de faire un peu l'inventaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans les bouquins qui existaient déjà sur la forêt de Compiègne, il manquait plein d'étapes, plein de trous, plein d'informations, plein de ressources iconographiques. Donc je me suis par exemple amusé, ça a été pratiquement le point de départ, à faire des photos des 305 poteaux de carrefour de la forêt de Compiègne, chacun. Ils se ressemblent tous bien évidemment, sauf qu'ils sont tous évidemment différents, de par déjà leur dénomination. Et ce travail d'inventaire m'a finalement emmené dans des endroits où je n'allais jamais, et me rendant compte de la grande variété de la forêt. Et donc ça m'a évidemment beaucoup mobilisé, puis après on m'a dit « mais il faut que tu l'écrives tout ça », parce que le dernier bouquin sur la forêt de Compiègne, il a plus de 20 ans, elle a énormément changé depuis, c'est tout l'enjeu aussi de raconter ce passé pour décrire le présent et surtout orienter le futur. Donc ça a été un travail effectivement d'investigation, même si je connaissais a priori un peu la forêt, j'ai appris en fait à chaque étape de la rédaction du bouquin des informations nouvelles et j'espère que du coup que les lecteurs en apprennent aussi un peu, oui.
Alors on rappelle quand même que tu es correspondant au Courrier Picard, donc l'écriture c'est quand même quelque chose qui te connaît. Question professionnelle, on ne sait pas trop, hein, c'est un peu nébuleux, on ne sait pas si tu vends des produits, des goodies éco-responsables ou si... C'est quoi ton vrai métier en fait à la base?
Ah, mon Dieu. Il faut une émission de 3 heures. Non, j'ai plusieurs métiers.
Ou ta formation, peut-être, si tu veux nous parler de ta formation initiale.
Alors, ma formation initiale, elle n'a pas grand-chose en fait à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai plusieurs activités professionnelles qui sont toutes distinctes l'une de l'autre. Et j'ai toujours mis un point d'honneur à les séparer les unes des autres, à ne pas mélanger le message. Donc, pour les Compiénois qui me connaissent, je suis effectivement essentiellement correspondant au Courrier Picard et passionné et toujours prompt à parler, à échanger sur la forêt. J'ai effectivement une activité commerciale dans l'objet publicitaire éco-responsable, mais qui n'est pas directement liée à ce que je fais sur Compiègne.
Ouais, donc tu ne travailles pas chez Total, c'est pas ça ton deuxième métier caché, quoi.
Non, et Total fait même partie de ma liste noire de clients interdits.
Alors ce bouquin, il a un titre, il a également un sous-titre avec un questionnement, c'est « Enquête indépendante sur la forêt dominale de Compiègne, 10 calamités pour une seule forêt, 14 questions qui fâchent, 10 propositions d'action concrètes ». Alors moi je m'attendais un petit peu à un bouquin, tu m'as dit « tu verras, tout le monde en prend plein la figure ». En fait non, c'est assez soft finalement, c'est très factuel, il n'y a pas de parti pris, c'est vraiment un côté journalistique.
Oui, ça a été toujours un travail sur le fil du rasoir, de raisonner au sens propre, d'avoir de la raison, raison gardée, de ne jamais me laisser emporter par mon militantisme et par mes convictions personnelles, et de ne pas en faire en tout cas un filtre à la lecture, et de permettre à chaque lecteur de découvrir toutes les facettes de façon très exhaustive de la forêt. Donc c'est pour ça que je parle de tout le monde. Alors tout le monde peut se sentir chaque famille d'utilisateurs de la forêt dont je parle dans le bouquin peut se sentir attaquée, stigmatisée. J'ai déjà eu des retours de cet ordre-là, mais pas sur le général. Parce que ce qui réunit l'ensemble des personnes qui aujourd'hui font usage de la forêt, c'est leur passion pour la forêt, quelle qu'elle soit, que ce soit les chasseurs, les sylviculteurs, les cueilleurs de champignons, tous sont passionnés par la forêt. Par contre, leur usage est évidemment extrêmement différent. Et donc, c'est vraiment en permanence de rester en deçà du militantisme et d'être le plus factuel possible, comme tu le dis. Pour autant, je ne me suis jamais interdit de donner un point de vue plus personnel, mais en l'isolant dans des petits encarts pour permettre justement de bien comprendre la position que j'ai, parce que j'écris ce livre à la première personne. C'est pas un ouvrage universitaire, c'est pas un collectif. Je ne défends pas une association ni un point de vue collégial. C'est le mien, c'est mon point de vue. Donc il était important de quand même bien l'expliquer en disant enquête indépendante, pour qu'elle ne soit pas rapprochée de quelque point de vue géopolitique que ce soit.
Oran ? Dans ce livre, tu dresses un peu, tu fais le constat de la forêt. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, même si on va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, ce serait impossible. Mais voilà, quel est aujourd'hui le constat que tu fais de la forêt de Compiègne ?
Alors, je ne l'ai vu grandir que de mon vivant, et c'est justement ça un peu la difficulté, et a été également un des axes du bouquin, c'est de se rendre compte et constater, non seulement de constater, mais d'expliquer que notre vision du temps de vie d'un humain est très limitée par rapport au temps de vie, au temps de cycle de la forêt, de l'arbre, au sens large, qui est de plusieurs centaines d'années. Et ça ouvre plein de constatations, effectivement, de se rendre compte qu'en fait, si on regarde la forêt au regard d'aujourd'hui, simplement, on va la considérer comme un bel endroit dans lequel il est agréable de se promener. Mais si on se réfère ne serait-ce qu'aux 50 années passées, de mon vivant, un peu plus même, je peux constater qu'elle a déjà changé sur cette échelle de temps-là et que ce changement s'accélère. Quand on regarde justement les études les plus anciennes, et c'est pour ça que j'ai fait aussi un travail historique, sur les anciens bouquins qui sont sortis, le bouquin de Calais, d'Arlet Dofov, etc., qui font référence de Mali, de Mouton, on s'aperçoit qu'eux-mêmes, il y a 100 ans, ou plus, quand leur travail est historique aussi, la forêt est différente. Les dessins, les estampes, les photographies, les premières photographies de la forêt, les cartes postales historiques que j'ai pu trouver, montrent une forêt qui était beaucoup plus importante en termes de volume, disons, de bois sur pied, et qui l'est de moins en moins, à la fois évidemment à cause de l'exploitation forestière, mais surtout à cause du réchauffement climatique.
L'exploitation forestière, on y vient beaucoup dans le bouquin. Alors en fait, moi je pensais que c'était un peu une nouveauté, enfin on le voit beaucoup avec les coupes rases, parce qu'évidemment, moi qui ai 38 ans, j'avais jamais vécu de coupes rases dans la forêt, mais en fait ça existe depuis tout le temps, c'est-à-dire pour les bateaux, pour les charpentes, etc. La forêt de Compiègne a toujours été utilisée pour son bois.
Alors, elle ne l'a pas été toujours. Elle l'a été effectivement à partir d'une certaine époque. Et ça a été aussi, et c'est le premier pavé du bouquin, c'est de faire un retour historique et d'essayer de comprendre justement quelles ont été les grandes mutations dans les usages de la forêt. Le premier usage de la forêt de Compiègne, qui est une forêt millénaire, elle existe depuis au moins 1000 ans, en tout cas, c'est certain, puisque les premières constatations dans les premiers ouvrages remontent à peu près aux années 500, donc c'est, on pourrait même dire plus de 1500 ans. C'était l'usage pour la chasse à courre. Ça a toujours été acquis pour tout le monde, il n'y a pas de débat sur l'information. Elle n'est devenue une forêt d'exploitation qu'à compter grosso modo de ce qu'on appelle la réformation de la forêt, qui a été faite par Colbert, le ministre de Louis XIV, et on est aux alentours de 1700, hein. Donc on est au cours du XVIIIe siècle. Donc c'est à la fois très ancien, parce que 200 ans ou 300 ans à l'échelle de la forêt, c'est important, mais c'est finalement relativement récent, la nécessité effectivement de se dire on va aussi récupérer du bois, et évidemment essentiellement pour la marine et pour la charpente.
Alors Oran, te présenter comme le spécialiste de la forêt compiénoise, alors on pourra dire que tu es le spécialiste de la forêt compiénoise, mais le spécialiste amateur, puisque c'est pas ton métier. Il y a Hugues de Grandmaison qui est le spécialiste, on va dire plutôt quelqu'un qui a été embauché, qui a travaillé dans le bois. C'est quoi ton rapport avec Hugues de Grandmaison? Alors tu disais tout à l'heure que toi tu avais 50 ans de forêt, lui il a 85 ans de forêt. C'est quoi le rapport et c'est quoi cette passation? Est-ce qu'il y a une passation du coup qui est faite?
Alors Hugues est quelqu'un pour qui j'ai une extraordinaire affection personnelle. J'ai fait très récemment, justement dans le courrier Picard, un portrait de lui, puisque très récemment il a participé aux 50 ans de l'association dont il a été le président pendant, je crois, 17 ans, la sauvegarde du patrimoine des forêts du Compiénois, la SPFC, qui est très active en forêt. Et Hugues a été pour moi un passeur. C'est quelqu'un que je connais très bien puisqu'il habite Saint-Crépin-au-Bois, village dans lequel moi-même j'ai habité. Et donc, il m'a vraiment ouvert les yeux sur la forêt. Il me l'a fait découvrir, comme il l'a fait à des milliers d'enfants. C'est un conteur extraordinaire. Il partage énormément ses connaissances avec les autres, avec toujours enthousiasme et humour, ce qui ne gâche rien. Ça évite de se crisper systématiquement sur le sujet. Donc, c'est un personnage que j'apprécie énormément.
On a une question.
On va peut-être rentrer dans le vif du sujet ou du problème. Tu parles beaucoup de l'ONF dans ce livre, évidemment. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est la forêt, elle est dirigée en quelque sorte seulement par l'ONF, et l'ONF finalement est le seul organisme à faire un peu ce qu'il veut sur la forêt, c'est ça?
Alors oui, c'est cela, parce que c'est un organisme qui est délégataire pour l'État, effectivement, de la gestion des forêts domaniales. Donc cette forêt appartient à l'État, elle n'appartient pas au public. C'est une distinction qui est assez délicate à faire aux gens que j'accompagne en forêt ou à qui je parle de cela, parce qu'ils ont l'impression que la forêt est un lieu ouvert où on peut faire ce qu'on veut. Non, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Il est géré par une organisation, une administration de l'État, donc l'Office national des forêts, qui a à gérer cela de la meilleure façon possible, à la fois pour l'accueil du public, pour le maintien de la biodiversité et le maintien de ce patrimoine forestier, et puis également pour en tirer revenu, puisque c'est un organisme à vocation commerciale. Il est là aussi pour payer ses charges avec le revenu de la vente du bois. Et c'était jusqu'à il y a une vingtaine d'années quelque chose qui ne posait pas problème. Mais la nouvelle injonction qui est aujourd'hui faite à la forêt, c'est d'être un lieu de ressourcement, un lieu de vie, un lieu de préservation de la biodiversité, de captation du carbone, devient très très compliqué à gérer au quotidien pour l'ONF, qui est en situation de grand écart permanent. Et la difficulté que l'on a sur le terrain, effectivement, en tant qu'amateur, en tant qu'observateur, en tant qu'ami ou amoureux de la forêt de Compiègne, c'est de constater qu'effectivement, les personnels de terrain sont bien conscients de tout cela, mais ont des injonctions, des ordres de production, des volumes à sortir, et que la situation devient pour eux extrêmement difficile. Elle l'est pour tout le monde, parce qu'on ne peut plus aller chercher aujourd'hui des bois en forêt comme on le faisait il y a 20 ans. La ressource ne repousse plus, l'adaptation de nouvelles espèces est encore au stade expérimental, et donc on n'est pas du tout prêt à assurer la résilience de la forêt aujourd'hui, en tout cas de façon assistée. Après, on peut le faire de façon totalement libre et naturelle, en laissant la forêt totalement en évolution autonome, mais c'est évidemment surtout pas le choix qui est fait par les institutions, cela.
Ce qui m'a marqué dans ton livre, c'est qu'à un moment tu dis que la production de bois finalement est destinée à plus de la moitié, à plus de 70% pour l'exportation. C'est-à-dire que le bois français part à l'étranger.
Alors la filière bois France, qui est évidemment une filière de transformation du bois, est aujourd'hui dans une situation économique très délicate. Elle l'est depuis longtemps. Ça fait partie, comme le textile, de filières qui ont été largement délocalisées à l'étranger pour le coût de la main-d'œuvre. Et les scieries qui restent aujourd'hui en France sont soit sur du très très beau bois, vraiment des bois d'exception, et donc elles travaillent peu, mais des bois de très très grande valeur, du chêne évidemment essentiellement, soit elles sont sur des formats de standard, c'est-à-dire de la fabrication de petites lattes de parquet, de petits éléments de décoration, des petits formats, beaucoup de résineux, parce que c'est ce qui a la capacité de production et de reproduction quelque part de la matière première le plus rapide.
C'est le Douglas.
c'est en particulier effectivement ce genre de pain-là, mais même du pain maritime ou du pain sylvestre, même de l'épicéa, malgré les difficultés spécifiques de cette espèce-là. Et donc, il y a finalement tout un pan de l'industrie du bois qui a disparu, donc des savoir-faire qui ont disparu. Et évidemment, il y a d'autres pays à moindre coût, pour ne pas dire à très bas coût, qui se sont emparés de ces marchés-là et qui produisent du bois et qui, effectivement, après, nous renvoient à travers la planète du parquet ou des bois d'œuvre moins chers que si nous-mêmes, nous les avions produits en France.
Donc là, c'est la Chine qui, en fait, transforme notre bois, qui nous le renvoie par le roi Merlin pour nous vendre du parquet, en fait.
Oui, par un processus tout à fait simple et économique, c'est que les bateaux qui amènent des containers, sinon repartent à vide. Et donc, le coût du transport pour emmener nos bois en Chine, en particulier, est quasiment nul. Et donc, c'est évidemment, ça a un impact tout à fait fort. Et ça leur permet, mais effectivement, de nous renvoyer des lattes de parquet qu'on trouve aujourd'hui dans les magasins de grande distribution, qui sont de chêne français, mais transformés en Chine.
Juste, selon toi, quelle serait la solution? Parce que du bois, on va en avoir encore besoin pendant longtemps pour nos maisons, etc. Donc, il va falloir couper du bois. Mais où le couper, ce bois?
Alors, ça, c'est une réflexion que je mène depuis très longtemps en me demandant, mais où est la solution, effectivement, à cette quadrature du cercle? Comment est-ce qu'on arrive à concilier cela? En France, c'est concilié depuis, effectivement, la réformation de Colbert avec ce qu'on appelle la multifonctionnalité de la forêt. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'ONF, qui était avant évidemment la maîtrise des eaux et forêts, de gérer simultanément à la fois ces différentes problématiques de fonctionnalité et entre autres la production de bois. Dans d'autres pays, et je vais citer un de ceux qui aujourd'hui me fascine le plus, c'est la Pologne, puisque j'étais récemment dans la plus vieille forêt européenne, la forêt de Białowieża, à la limite de la frontière avec la Biélorussie, eh bien, j'ai découvert en fait sur place que le concept qu'ils avaient, eux, était totalement différent du nôtre. En fait, d'un côté, ils ont des forêts qui sont des lieux sauvages, des lieux de biodiversité, des lieux de promenade et de maintien, justement, de la capacité de captation carbone. Ils sont très au clair avec cela. Donc, ils maintiennent évidemment les bois sur pied, sinon ça perd cette capacité-là. Et à côté, ils ont des champs d'arbres. Ils produisent du bois. Et toutes les maisons là-bas sont fabriquées en bois, mais à partir de terrains qui sont dédiés à la production d'arbres. Et ils ne font aucun mélange, y compris sémantique. Là-bas, ce qu'ils appellent la forêt, ça s'appelle la pushka. Et donc, je le prononce mal, mais c'est ce qu'on entend. Et pushka, pour eux, c'est clairement une forêt, ça n'est pas un champ d'arbres. Ils font une distinction très claire entre ce qui est du domaine de la production d'arbres d'un côté et de la forêt de l'autre.
Donc là, on préserve les forêts domaniales en forêt et on plante des arbres dans des champs. C'est un peu la solution.
Oui, et même pour pousser, parce que aussi un des objectifs du bouquin, c'est de pousser les débats, c'est-à-dire de sortir des schémas stériles. L'ONF fait tout mal, les promeneurs font tout bien, ce qu'il faut. De sortir de ça, d'essayer de faire des propositions, justement. Et la proposition ultime, je ne suis pas le seul à la proposer, les ONG commencent à la proposer, c'est de dire, est-ce qu'on n'a pas à gagner à transformer complètement le modèle économique de l'ONF et à payer l'ONF non pas pour les mètres cubes de bois qu'il retire de la forêt, mais pour les tonnes de CO2, de carbone, pardon, puisque c'est finalement le carbone qui reste stocké dans les arbres, qu'il stocke. Parce que finalement, l'enjeu écologique, l'enjeu de la préservation de l'humanité, c'est beaucoup plus aujourd'hui de savoir conserver le carbone stocké dans les arbres, hein, dans les racines et dans les feuilles et dans le tronc, bien évidemment, et d'éviter de le relâcher en coupant le bois.
Bon, là, si l'ONF était là, ils diront qu'un arbre coupé, c'est quand même du carbone qui a été capté, quoi.
Il a été capté, il est stocké. Alors, j'ouvre un autre sujet, d'ailleurs, c'est pour revenir toujours au bouquin, à notre chapitre, qui est celui qu'on appelle de la biomasse ou de la bioénergie, plus précisément. C'est aujourd'hui, avec les soucis en particulier économiques sur l'énergie, le poids de l'énergie, on redécouvre la ressource bois comme étant miraculeuse, avec des pellets, des granules, etc. Mais là, évidemment, dès que c'est bois, certes, bois, donc plein de carbone, parce que c'est plus de 90% hein, du poids du bois qui est fait du carbone. Le reste, c'est juste de la matière fibreuse. Une fois que le bois est sec, c'est vraiment le carbone qui pèse le poids de l'arbre. Eh bien, ça se relâche évidemment dans l'atmosphère. Donc toute personne aujourd'hui qui a un poêle à bois participe évidemment très directement au réchauffement climatique.
On va faire une courte pause musicale. On rappelle qu'avec t'es avec nous, Bernard Debargue, pour le livre La forêt dans tous ses états, auto-édition, et donc enquête indépendante sur la forêt dominicale de Compiègne. Il y a un kiss-kiss bank-bank qui est actuellement en cours pour pouvoir acheter les deuxièmes, la deuxième partie des 100 exemplaires qui vont sûrement être produits. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de la radio ou sur. T'as un site internet ou comment on te retrouve ?
Alors, sur le groupe Facebook que j'anime également, qui s'appelle Nous aimons la forêt de Compiègne, qui est une formidable caisse de résonance justement pour tous ceux qui aiment la forêt.
Raphaël Sadik sur les ondes de Radio Graphite 94.9 www.graphite.net. C'est la matinale, on est ensemble avec Bernard Debargue et Oran Loz. Ça fait bizarre de t'appeler Oran Loz à l'antenne, que vous retrouvez maintenant plus dans le journal de 8h, de 8h30, mais maintenant vous la retrouvez un petit peu disséminée dans la prog, puisqu'elle a commencé déjà à faire des reportages, mais il y en a un peu plus à l'antenne. Et également, on tenait à vous dire qu'on a relancé un appel aux dons. Donc si vous souhaitez soutenir la radio, que vous êtes auditeur ou auditrice et que vous ne savez pas quoi faire de votre argent, et c'est possible de nous l'envoyer. Et si vous avez la chance de payer des impôts, vous aurez 66% de remise sur vos impôts à hauteur de 20%. Si vous n'avez pas tout compris, appelez-nous, on pourra faire vos conseils fiscalistes avec grand plaisir. On parle du bouquin qui s'appelle La forêt dans tous ses états. Il y a déjà eu 100 exemplaires de vendus, il y a une réédition de 100 exemplaires. Il faut aller faire un tour sur le Kiss Kiss Bank Bank. On mettra toutes les informations sur la page Facebook de la radio. Rappelle-nous le nom du groupe La forêt de Compiègne. C'était quoi ?
Nous aimons la forêt de Compiègne. D'ailleurs, je profite pour dire qu'il y a un groupe cousin que j'anime également, qui sont les Veilleurs de la forêt de Compiègne.
Alors les veilleurs, c'est pour déposer comme quoi il y a des déchets, ce genre de choses en forêt de Compiègne, en mettant les coordonnées GPS. Oui. Et l'autre, c'est plus pour discuter de la forêt et puis un peu documenter également en prenant des photos, des coupes, ce genre de choses. Par exemple, Oran qui a découvert que le chemin de quelle chapelle ?
Ah oui, le dimanche, je suis allée me promener en forêt et j'ai voulu aller voir la chapelle Saint-Corneille et je me suis rendu compte que c'était pas possible d'y accéder. En tout cas, moi, j'ai pas réussi parce qu'il y a un chemin qui est, je pense, interdit. Enfin, en tout cas, il y a marqué interdit d'accès. On peut y aller à pied, mais on n'a pas trop envie d'y aller quand même.
Donc ça, le met sur Nous aimons la forêt de Compiègne ou les veilleurs de Compiègne ?
Alors, Nous aimons la forêt de Compiègne a pour vocation justement à donner des informations, à expliquer ce qui se passe de façon la plus neutre et surtout la plus positive possible. Donc d'être plutôt du côté du verre à moitié plein. L'autre page, justement, a vocation à être plutôt du côté du verre à moitié vide, donc d'être dans le signalement, dans la remontée d'informations ou d'observations qui sont plutôt punchy. J'étais obligé de faire ça parce que justement, sinon la page Facebook Nous aimons la forêt de Compiègne était en permanence alimentée d'informations sur les coupes, d'informations sur l'entretien des chemins, etc. Bref, de récriminations qui me fatiguent, je le dis honnêtement, qui me fatiguent parce qu'en fait, elles partent de personnes qui ont effectivement fait des constatations et ne cherchent pas à savoir pourquoi. Dans le cas particulier que tu évoques, Oran, en l'occurrence, il s'agit de protéger un espace de biodiversité qui est une réserve de biodiversité dirigée, c'est son terme, et j'explique ça justement aussi dans le bouquin, la différence entre les différentes acronymes et les différentes distinctions qui sont faites par l'ONF en forêt, qui a vocation à protéger un espace totalement essentiel qui est celui des Beaumonts, aux alentours des Beaumonts, donc tout le tour des Beaumonts, et la chapelle Saint-Corneille est sur le flanc sud des Beaumonts. Donc sa vocation à être informative, sa vocation à être pédagogique. Après, ce qui est délicat dans ce qui est fait, c'est que ça s'est fait sans aucune concertation, en particulier avec les associations de protection de la forêt de Compiègne, il y en a deux, et que ça sort du jour au lendemain avec des panneaux d'information, ou en tout cas des panneaux d'interdiction, plus précisément dans ce cas-là, qui créent une ambiguïté, qui ne donne pas le pourquoi. Pourquoi il faut protéger cet espace-là, pourquoi il faut faire attention, pourquoi il ne faut pas sortir des chemins. Alors qu'il y a une vraie raison pour cela, mais le manque de communication est quelque chose qui est aussi extrêmement pénalisant et dont je fais le reproche en permanence à mes amis de l'ONF.
Et tu en parles d'ailleurs beaucoup dans ton livre. Et tu parles aussi du rôle qu'a joué la collectivité, la mairie de Compiègne, etc. Depuis peu, elle commence à avoir un rôle, en tout cas à donner son avis depuis l'année dernière, c'est ça ?
Oui, alors ça aussi, ça a été un élément tout à fait déterminant dans le travail d'enquête. C'est que... en regardant un peu quelle était la cartographie de la forêt de Compiègne, je me suis rendu compte que certains maires des communes alentours, il y a quand même 16 communes qui ont une partie de leur territoire en forêt domaniale, la plupart des maires ignoraient totalement qu'ils avaient une emprise administrative, donc de responsabilité sur une partie de la forêt de Compiègne. Et ça m'a extraordinairement surpris parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'y allaient pas, ils ne s'en occupaient pas. Et j'ai compris pourquoi, en comprenant effectivement comment l'ONF interagissait avec les élus, en leur expliquant que la forêt était un milieu complexe, qu'on maîtrisait tous les leviers, et que donc il était beaucoup plus sage pour ces maires élus pour 5 ans de finalement laisser l'ONF faire ce qu'il avait à faire sur cette partie forestière du territoire communal sans s'en occuper. Et les maires étaient bien contents qu'on les libère d'une partie de leur territoire. Sauf que dans le cas, par exemple, de la ville de Compiègne, et c'est le même pourcentage à la Croix-Saint-Ouen, par exemple, pour les citer, on est à plus de 75%. Plus de 75%, plus des trois quarts du territoire de la commune est en forêt. Et donc, quelque part, sous-traité en gestion à un organisme public sur lequel les maires n'exerçaient jusqu'à présent aucun contrôle. Ils ne savaient absolument pas ce qui s'y passait. Et c'est devenu très révélateur à l'occasion des grandes coupes qu'on a eues depuis 3-4 ans, où effectivement, quand on commençait à aller couper du bois au vu des premières maisons de tel ou tel village, que ce soit Vieux-Moulin, Saint-Jean-Bois, Pierrefonds ou ailleurs, ça provoquait une réaction des citoyens disant « mais comment ça se fait qu'on coupe notre forêt ?» Et c'est ça qui a permis effectivement de faire avancer beaucoup la cause, de provoquer effectivement une réaction de la ville de Compiègne, en particulier de son maire, qui a effectivement tapé un peu du poing sur la table et créé, on a fait tout un travail pendant un an, créé des assises de la forêt, où on s'est vraiment mis tous autour de la table avec tous les partenaires de la forêt pour essayer de trouver des leviers justement pour recréer une gouvernance plus partagée avec l'ONF, ce qui n'était jusqu'à présent jamais été le cas.
Et alors, qu'est-ce qu'il en est sorti de ces réunions? Et quel est le rôle maintenant de la mairie? Qu'est-ce qui a changé?
Alors, à court terme, malheureusement, rien. Mais je suis très, très, très pressé. Je suis beaucoup plus pressé que la forêt, même si elle-même attend, évidemment, des améliorations et des changements dans la façon dont nous, humains, l'utilisons. Il en est sorti une trentaine de projets. Projets qui sont distingués en plusieurs familles. Accueillir tous les publics, valoriser durablement la ressource en bois, augmenter les connaissances, se former et s'informer, préserver la biodiversité, gérer durablement le massif. Voilà les quatre thèmes sur lesquels on a travaillé. On a sorti une trentaine de plans d'action, mais qui pour l'instant ne sont pas lancés comme étant des projets à régler, à part un d'entre eux, qui est un projet qui a fait consensus très vite et qui est effectivement peut-être un bon levier pour l'information, c'est la création d'une maison de la forêt.
De toute façon, c'est lourd hein, de porter des choses multipartenaires, c'est lourd à se mettre en place, ça a une inertie, le temps de se lancer entre les différentes institutions, les particuliers, la mairie, la collectivité, enfin, on a tous des temporalités un peu différentes, donc automatiquement, ça prend du temps.
Oui, ça prend du temps, mais malheureusement, et c'est aussi pour ça qu'il faut être, engagé, il faut être actif, il faut s'impliquer, il faut discuter, il faut aller au contact parfois, parce que la forêt n'a pas véritablement aujourd'hui ce temps. Et les décisions que l'on prend aujourd'hui, effectivement, compte tenu des délais de mise en action, la fragilise d'autant plus que l'inaction aujourd'hui est palpable. Quoi. On continue de taper dans les bois, on continue d'y chasser comme si de rien n'était, alors que la forêt n'est plus capable d'encaisser d'avoir la résilience qu'on en attend. Elle l'avait quand il y avait la température était plus basse et qu'il y avait de la ressource en eau. Mais là, la situation hydrique est très très mauvaise. J'étais encore dimanche en forêt sur 2-3 mares et les niveaux sont extrêmement bas, ce qui à cette époque de l'année est quand même tout à fait nouveau et très inquiétant.
Là, la pression démographique, est-ce que du coup la ville pourra aller encore rogner un petit peu sur la forêt? On a pu le voir notamment du côté de l'ancien camp militaire, là, le camp des Sablons, je crois qu'il s'appelle, ce quartier-là. Est-ce que du coup la mairie peut décider d'aller grignoter encore un petit bout de forêt pour installer un nouveau quartier? Ou est-ce qu'aujourd'hui, d'après toi, elle s'est un peu préservée ce côté-là?
Alors, j'ai tendance à espérer que ce soit préservé. En l'occurrence, dans le cas particulier, il s'agissait de la remise à la vie civile, on va dire, d'un terrain militaire. Donc il y a eu effectivement une emprise qui a été négociée avec l'ONF, le principe étant celui d'un échange. C'est-à-dire que quand on va récupérer ne serait-ce que quelques mètres carrés de forêt, l'ONF doit effectivement bénéficier en contrepartie de ces mêmes quelques mètres carrés ailleurs. Donc là, finalement, la configuration totale de la forêt de Compiègne, les 14 400 hectares qu'elle fait, n'ont pas changé depuis des dizaines d'années et sont totalement sanctuarisées. Je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, que ce soit de Compiègne ou d'autres communes. Mais pour autant, effectivement, la pression de la proximité périurbaine est très, très importante sur la forêt. Et quelque part, tant mieux que cette forêt soit à proximité de la ville. C'est aussi ça qui a fait que la ville de Compiègne s'est développée. Je parle de cela aussi dans une de mes questions, parce que c'est totalement évident et tous les Compiénois aujourd'hui adorent la forêt, mais la ville de Compiègne existe parce qu'il y avait d'abord la forêt.
Juan,
Je vais revenir aux habitants de la forêt, les arbres. Il y a des arbres centenaires qu'on coupe aujourd'hui. Ça paraît incroyable de se dire ça parce que... parce que c'est la forêt, c'est le poumon de l'humanité, comme on l'appelle. Toi, tu milites pour un patrimoine de la forêt, tu milites pour que ces arbres centenaires soient protégés, comme le sont les églises, etc.
Eh oui, je trouve étonnant, scandaleux, révoltant, les mots me manquent, que les arbres, le vivant, aujourd'hui, ne bénéficient pas du même statut de protection qu'un patrimoine pierre, et qu'effectivement, on mette autant d'argent pour rénover, et quelque part tant mieux, du patrimoine bâti, et qu'on n'en mette rien et qu'on tourne autour en imaginant simplement que c'est normal qu'on coupe un bois qui a 150 ans, 200 ans, c'est normal. Il a atteint son âge d'exploitation, mais d'où on a sorti cette constatation, simplement d'une idée, d'un concept humain, mais dans la nature, l'arbre peut mourir au bout de 300, 400, 500 ans, c'est ce que j'ai vu en Pologne. Ils tombent tout simplement de leur poids, ils tombent de leur faiblesse, ils tombent du fait qu'ils ont été ravagés, comme l'on dit, par des champignons ou par des insectes, mais ils deviennent immédiatement de la nourriture au sol, alors que chez nous, bien évidemment, il n'est pas question de les laisser dépérir. Il faut les récupérer, il faut les exploiter, mais on n'aura plus 100 ans pour attendre que la génération suivante arrive. Et en enlevant ce patrimoine sur pied, ce patrimoine vivant, même affaibli, évidemment, on creuse encore un peu plus la tombe de la forêt.
Et on a les risques d'incendie, de plus en plus.
Oui, d'évidence, effectivement, on va être confronté à ces risques incendies. Les sapeurs-pompiers s'entraînent en forêt, se préparent au premier départ de feu que l'on connaîtra vraisemblablement, effectivement, dans les 10 ans à venir, sans aucun doute. Ce qui s'est passé en Gironde cet été a été absolument apocalyptique. Et certes, bon, c'est quand même aussi un peu le fruit de l'exploitation humaine, parce qu'en l'occurrence, on était sur des résineux extrêmement secs à cause de la météo, mais plantés les uns à côté des autres, sur lesquels il n'y avait pas d'adaptation au territoire, justement, dans ces champs d'arbres, parce que là, ce n'est pas de la forêt, c'est du champ d'arbres, et que, évidemment, la première étincelle a provoqué les feux qu'on a vus à la télévision, qui sont apocalyptiques.
C'est combien de temps de recherche pour faire ce livre ? Parce qu'il y a une partie sur le terrain, il y a une partie dans les archives, il y a une partie rencontre des gens. Du coup, il y a combien d'années de travail ?
Bon, j'ai arrêté de compter. Hein. Je peux dire que c'est des milliers d'heures, sans aucun doute, sur 4 ans. Je ne peux pas faire une moyenne, ça n'a pas grand sens, mais ça a été un investissement de tous les instants, parce que chaque fois que je trouvais une information, je voulais m'assurer que cette information était crédible, était fiable, idéalement la recouper. Donc c'est pour ça qu'aussi le filtre journalistique est important. C'est pas contenter de reprendre quelque chose qu'on a vu sur un réseau social. On sait très bien, et tu es bien placé pour le savoir, toi qui travailles beaucoup sur l'éducation aux médias, qu'il est fondamental de recouper ces informations. Donc tout est documenté. Il a fallu donc que je lise des centaines d'ouvrages, de rapports, de comptes rendus, en plus évidemment de l'observation sur le terrain, que j'écoute ce que chacun avait à en dire, que ce soit les chasseurs, les sylviculteurs, les promeneurs, pour essayer justement de confronter les points de vue comme le ferait un journaliste.
Et à quel moment on se dit c'est bon, j'arrête ?
Bah en fait, on se le dit jamais. On se le dit jamais, on se le dit face au mur. En fait, j'avais l'objectif de sortir le livre à l'occasion de ce travail que l'on a fait avec les différentes parties prenantes que j'évoquais tout à l'heure, les Assises de la Forêt. Je pensais que ce serait une contribution utile à la connaissance de l'ensemble des domaines de la forêt à cette occasion-là. Malheureusement, on a glissé. Les corrections ont pris énormément de temps en particulier. C'est un livre, je ne sais pas combien de caractères, d'ailleurs, je n'ai même pas fait le total, mais on est à plusieurs centaines de milliers de caractères, donc c'est une masse considérable d'informations et de contenu. Il y a plus de 150 photos, enfin, c'est quand même un boulot important en volume, mais je n'ai pas été capable de le sortir, et il est donc sorti juste avant Noël, ce qui a été aussi une bonne opportunité pour que pas mal d'amis et de gens concernés par la forêt l'achètent à la librairie des Signes comme cadeau.
À qui il s'adresse justement ce livre ?
Alors, il s'adresse à tout le monde, hein, c'est-à-dire que j'espère que avoir des lecteurs dans l'ensemble des familles utilisatrices de la forêt, que ce soit les chasseurs, les exploitants, les cueilleurs, etc. C'est un bouquin qui a quand même vocation à être très didactique, mais en même temps accessible à tous. J'ai fait très attention, mais je sais que ça va m'être reproché par ailleurs, d'éviter les termes techniques. Mais en même temps, il y a des termes qui sont nécessaires à connaître parce qu'ils sont spécifiques à cette activité en forêt. Quand on parle d'un cloisonnement, ben, ça n'a pas grand intérêt en dehors de la forêt. Mais quand on est en forêt et qu'on sait ce que c'est qu'un cloisonnement, on a du coup un regard un peu différent sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut quand même être un peu didactique. J'essayais là aussi de faire la part des choses, et j'espère que les retours des lecteurs me confirmeront dans le fait qu'il est lisible jusqu'à son terme.
Là, sur le bouquin qu'on a sorti sur Éducation aux médias, on a 20 pages de glossaire, 20 pages de noms à connaître pour pouvoir travailler un petit peu dans l'éducation aux médias. Donc tu aurais pu faire justement à la fin expliquer les termes.
Alors, c'est évidemment une alternative tout à fait possible de faire un glossaire, mais je me suis interdit de le faire, figure-toi. C'est-à-dire que je me suis dit, non, il faut que j'explique les mots dans leur contexte. Au moment où j'en parle, il faut simplement que ça ait du sens et que ce mot-là s'impose. Donc je les ai mis en gras quand même pour les faire ressortir au moins la première citation, pour attirer l'attention du lecteur, pour qu'il soit capable justement de comprendre de quoi je parle quand je parle d'un engrillagement, quand je parle d'un manchon individuel de protection, etc., que le lecteur, avec la photographie associée, bien évidemment, comprenne de quoi il s'agit. Pour éviter l'aspect un peu universitaire, sans être du tout péjoratif dans mon jugement, du glossaire qui fait un peu référence à une espèce de dogme, de savoir, d'abécédaire obligé. Non, il n'y a pas d'abécédaire obligé. Il faut juste savoir, quand on est en forêt, que chaque chose a un nom et se nomme, et qu'un houppier, ben, c'est un houppier. Et voilà. Donc je l'explique en situation.
Il y a également une équipe derrière toi, puisque tu as écrit le livre, tu as pris les photos, mais il y a aussi des gens qui ont fait la mise en page, qui ont fait la correction, également les illustrations. Alors, illustrations, c'est les illustrations des cartes qui sont mises dedans, c'est lesquelles les illustrations ?
Alors, il y a eu deux personnes qui ont collaboré sur l'aspect illustration, en dehors des photos, Michel Cazin et Céline Cazorla. Michel s'est consacré aux cartes. Et Céline aux quelques illustrations.
Donc là, c'est des cartes que vous avez refait, hein, en fait. C'est pas des cartes qui ont été récupérées.
Non. Toutes ces cartes sont des créations artistiques, comme l'on dit, qui ont été faites pour le livre, qui sont protégées par le droit d'auteur de leur auteur, Michel Cazin en l'occurrence, ou Céline Cazorla pour les illustrations. Il n'était pas question pour moi, étant journaliste évidemment, d'aller contre le droit d'auteur. Les données d'origine sont très souvent des cartographies de l'ONF ou de l'IGN. Hein. Qui évidemment documente tout cela de façon très très précise, mais je tenais beaucoup aussi à simplifier les cartes, parce qu'en l'occurrence, quand ce sont des organismes publics qui produisent de la data, de la carto, en général, les couches et les surcouches et les sursurcouches le rendent accessible qu'à quelques spécialistes scientifiques qui sont très très compétents et qui eux-mêmes parfois n'arrivent même pas à les lire. Et moi, j'ai au contraire essayé de les dégrader au maximum, de les rendre aussi simples à comprendre que possible, sur les évolutions de la forêt, sur les différentes zones de la forêt. Je prends juste un exemple parce qu'il est très important et ça sera l'objet de mon principal combat, je pense, sur 2023. C'est tout ce qui concerne la protection de la forêt au titre de Natura 2000. Et donc, il y a différentes zones protégées avec des statuts distincts. Et donc, je voulais que ce soit bien clair pour le promeneur, parce que sur le terrain, rien n'est indiqué dans ce domaine-là comme étant des zones spécifiquement protégées, à part, justement, ce que disait Oran, précisément sur les Beaumonts ou sur les Grandmonts, qui sont les deux zones les plus protégées de la forêt.
On peut rappeler un peu Natura 2000, parce que je pense que pour l'auditeur, Natura 2000, c'est forêt protégée, etc. Mais quand même, il y a des coupes parfois de sécurité. On a pu voir au Beaumont que c'est pas une forêt qui bouge pas, quoi. Natura 2000, il y a des choses, des travaux forestiers qui sont quand même faits à l'intérieur.
Et voilà une belle question qui fâche, comme je les aime. Merci beaucoup de l'avoir lancée. Qu'effectivement, on est dans une situation très compliquée, voire paradoxale, voire insupportable, en tout cas de mon point de vue, qui est que ce site de protection communautaire, on appelle ça une zone d'intérêt communautaire, qui est la forêt de Compiègne, qui est intégralement classée Natura 2000 depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Mais malheureusement, cette animation, ce suivi de ce site de protection particulier, effectivement, reconnu par l'Europe, est assumé par l'Office national des forêts. Ce qui, pour moi, est une ambiguïté, un conflit d'intérêts majeur. Mais quand le classement a été fait, il a fallu que la communauté, donc l'agglomération de la région de Compiègne, qui en est le donneur d'ordre sur le territoire, trouve un animateur, une organisation capable d'en assumer justement la gestion et l'animation quotidienne. Et il n'y a eu que l'ONF et son cabinet conseil associé Écosphère qui ont pu répondre à l'appel d'offres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer.
Ouais, tu ne peux pas être le donneur d'ordre et également le régulateur, quoi. C'est pas possible.
Mais non, il y a un conflit d'intérêts permanent. Et sur chacun des chantiers financés, parce que c'est de l'argent public derrière, financés au titre de Natura 2000, il y a un conflit d'intérêts, il y a des ambiguïtés, il n'y a aucun contrôle scientifique indépendant. C'est une situation qu'il faut dénoncer et je m'emploie à le faire dans le bouquin parce que ça me choque beaucoup. Et pour tous ceux qui se promènent, qui sont des randonneurs, des promeneurs qui vont en France dans des sites qui sont classés Natura 2000, ils en constatent l'important encadrement, les informations qui sont données de partout, l'utilisation de personnel dédié, des guides nature qui font beaucoup, beaucoup de travail pour ça. On ne peut pas demander aux agents ONF aujourd'hui de faire ça. Et donc, il n'y a pas de personnel dédié pour le site de Compiègne classé Natura 2000.
D'ailleurs, Oran, ce week-end, tu as fait quoi ?
J'étais me balader dans la forêt.
une balade de nuit en plus.
Ah oui, vendredi, je suis allée faire une balade nocturne avec une toute nouvelle association qui s'appelle Terroise. Et voilà, ils ont d'ailleurs annoncé d'autres randonnées. Donc il faut les suivre sur leur page Facebook. Alors je leur fais un petit peu de pub.
Tu les connais, Bernard ?
Oui, je connais bien Quentin, qui en est un des animateurs, effectivement. J'étais au courant de ce projet. Moi, malheureusement, je ne pouvais pas m'y rendre. Je sais qu'ils ont une quarantaine de participants. Moi-même, il m'arrive de faire des sorties en forêt, et en particulier de nuit. Et je ne peux qu'inviter les auditeurs à vivre cette expérience-là. Parce que le ressenti, l'émotion, la crainte éventuelle que l'on peut avoir en forêt la nuit, c'est un élément extrêmement intéressant. Je peux me permettre d'ailleurs peut-être de faire moi aussi mon petit coup de com', parce que très prochainement va avoir lieu la nuit de la lecture. et c'est une opération nationale qui, cette année, a choisi pour thème la peur. Et le visuel qui a été choisi par l'Organisation nationale de la nuit de la lecture, on voit une famille qui est dans la forêt, avec évidemment le loup caché tapis, la chouette dans l'arbre et une pleine lune, donc pour donner une ambiance forestière. Et la commune de La Croix-Saint-Ouen a tout de suite pensé à moi pour animer justement à la médiathèque de La Croix-Saint-Ouen le 20 janvier de 18h à 20h justement des lectures autour de la forêt et autour justement des contes de Perrault, des contes les plus anciens, mais aussi des lectures de Tesson, des lectures de Walden, des lectures de Thoreau, des grands écrivains, Jim Harrison évidemment, qui parlent de la forêt dans une ambiance nocturne, avec du bruit, avec des sons de forêt, avec du brame de cerf. Bref, une grosse ambiance et j'invite évidemment les auditeurs à y participer, donc le 20 janvier à La Croix-Saint-Ouen.
Il y a des zones encore de camping possibles en forêt de Compiègne ou en forêt de Lègue ? Parce qu'il y avait notamment, dans la forêt de Lègue, il y avait la source par exemple, chemin des Process. Mais est-ce que du coup en forêt de Compiègne on peut aller camper la nuit ?
Non.
Non, il n'y a plus, c'est fini.
Non, on ne peut pas. On ne peut pas, il ne faut pas. En vrai, il ne faut pas, ou alors il faut être accompagné effectivement de personnes tout à fait compétentes. En forêt de Compiègne, il n'y en a qu'une qui bénéficie à la fois des compétences et de la caution de l'ONF pour le faire. Un très très bon ami à moi qui s'appelle Christian Decam, qui est sylvothérapeute et qui organise aussi des bivouacs de nuit. Donc ça, c'est vraiment une expérience à faire. J'ai fait déjà évidemment plusieurs fois avec lui. Donc n'hésitez pas là aussi à suivre les activités de Christian si vous le souhaitez pour vivre l'expérience d'un bivouac de nuit, mais non, le camping est strictement interdit en forêt.
Ils vont où les scouts maintenant ? Ils vont plus en forêt ?
Alors, les scouts peuvent aller en forêt. Il y a aussi quelques parcelles privées sur lesquelles ils peuvent évidemment vivre cette expérience. J'ai moi-même été louveteau il y a fort longtemps. Et c'est vrai que mes nuits et mes week-ends en forêt avec mes petits camarades de l'époque a été extraordinaire. C'est des souvenirs qui marquent pour la vie.
On écoute un extrait de la programmation de Graphite. C'est nouveau, ça s'appelle Stupéflip. Et c'est dans ton baladeur, c'est le nouvel album.
Mon pote, au niveau informatique, je suis maître Jedi, ok ? Ceinture noire en piratage.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Y'en a qui se croient dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un cap, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont rendus responsables de leur propre misère. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, voudraient les voir dans la cuisine. Ça rassure leur écho quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés, y'en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont bourrés. Y'en a qui disent c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Des balles dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Que des balles dans ton baladeur, baladeur.
Stupéflip sur les ondes de Graphite 94.9, ça s'est terminé un petit peu sèchement. On est toujours en compagnie de Bernard Debarque pour parler de ce livre qui s'appelle La forêt dans tous ses états, enquête indépendante sur la forêt de Miel de Compiègne, 10 calamités pour une seule forêt, 14 questions qui fâchent, 10 propositions d'action concrètes, et toujours en compagnie également d'Oran Loz qui co-anime cette émission. Quelle est la calamité, la pire entre guillemets, la première calamité pour toi en forêt de Compiègne? Ah, tu reviens dans ton livre pour
t'appeler. Alors, oui, effectivement. Ça a été aussi un gros travail d'analyse, d'étude, d'observation, certes, mais surtout de synthèse. Et donc, j'ai essayé de regrouper les calamités. Je les ai appelées les 10 calamités. Hein, vous savez évidemment la référence qui est associée à cela. Les 10 calamités qu'a supportées la forêt. Parce que on en connaît certaines, évidemment, qui sont génériques à toutes les forêts. La chasse, l'exploitation sont des calamités, parce qu'aujourd'hui, la forêt n'a plus capacité à les encaisser. Elle l'a eu pendant longtemps, mais aujourd'hui, elle n'a plus à l'encaisser. Donc, chacune de ces actions-là creuse un peu plus, encore une fois, la capacité de résistance de la forêt. Mais il y en a une en particulier que j'aime bien citer, parce qu'elle est assez spécifique à la forêt de Compiègne, c'est le hanneton. Le hanneton est un insecte, un coléoptère, qui en soi n'est absolument pas méchant, pas agressif. On ne risque pas de piqûre, on ne risque rien de particulier à l'existence du hanneton. Mais c'est un extraordinaire prédateur de la forêt, qui n'a pas lui-même, ou pratiquement pas lui-même, de prédateur, et qui a un cycle biologique tout à fait particulier. Alors, sans rentrer dans le détail, vous lirez le bouquin pour apprendre tous les détails, vous le verrez sous toutes ses coutures, et vous en apprendrez beaucoup sur le hanneton. Mais c'est une calamité qui s'est associée à beaucoup d'autres, et dont les liens, dont les sources, sont quand même très, très directement humaines. Tant que cet insecte vit dans une situation forestière couverte, c'est-à-dire qu'on a un couvert forestier relativement homogène, il ne se reproduit que très peu, et il ne devient un réel problème que par une capacité de reproduction extrêmement active qu'il a dans les zones dites ouvertes.
Parce qu'il ne s'est pas très bien volé.
Ah, c'est une catastrophe. Ouais. En termes de vol, c'est une catastrophe. Donc, dès qu'il est gêné par la futaie, dès qu'il est gêné par les arbres, évidemment, il ne se déploie pas sur de grandes distances. Et dès qu'il est dans des zones ouvertes, par contre, il arrive à s'envoler et à propager effectivement pendant la période où il est en dehors du sol, ce qui est quand même très limité dans le temps, mais très, très brutal en termes de nombre. Il arrive à se déployer et à se reproduire de façon extrêmement rapide et brutale. Donc il mange les racines quand il est sous terre, il mange les feuilles quand il est hors de terre. Donc
quand il est sous terre, il est en forme de larve, en fait.
Voilà, il grossit pendant plus de 3 ans, 3 ans et 50 semaines, on va dire ça, et il passe 2 semaines à l'extérieur de la terre pendant lesquelles il se nourrit, il se reproduit et il meurt immédiatement. Donc la capacité d'action sur cette calamité-là, elle est aujourd'hui totalement illusoire. On n'en a pas. Et comme il n'est pas question d'utiliser de produits chimiques pour régler le problème, ce qu'on aurait pu faire dans d'autres générations, on ne le fera plus, heureusement, on a cette calamité qui s'additionne aux autres, qui est liée aussi à l'existence des couperases, qui est liée aussi aux engrillagements, parce que dans ces zones-là, le sol a été labouré. Et donc, ils se posent très facilement. Ils ont un accès très facile au sable, puisqu'on a un sol sableux en forêt de Compiègne. Donc, ils arrivent à pondre très, très facilement. Et donc, l'activité humaine et l'exploitation, et en particulier par les coupes, a été un facteur accélérant et qui a créé aujourd'hui une machine de guerre à laquelle l'homme ne sait plus faire face. Donc, ça fait aussi partie de ces calamités. Et le bouquin a pour objet de comprendre pourquoi cette calamité est arrivée, comment elle s'est développée, et est-ce que l'homme a une cause et fait partie des causes, et c'est évidemment le cas.
Si on faisait des troupeaux de poules et qu'on élevait des poules en forêt qui bouffent les trucs, est-ce qu'on pourrait un peu... En fait, son seul animal qui mange les larves, c'est les poules, en fait. En gros, on le récolte, on peut le donner aux poules chez nous.
Oui,
est-ce
alors
que si
pas
on
que...
élevait des poulets en forêt, ça serait
pas
une
que.
Solution.
Ça me permet de faire le lien avec les propositions, parce que je voulais pas rester que dans les constats, que dans les plaintes, que dans les jérémiades. J'en entends toute la journée des jérémiades, et quand je demande aux gens vous faites quoi, je me plains. Je suis dans mon canapé, je dis l'ONF est mauvais, la chasse j'aime pas, etc. Mais concrètement, tu agis comment? Tu es engagé dans quelle association? Et là, évidemment, c'est souvent un peu la tristesse de la réponse. Bien, par exemple, dans le cadre de cette population, je fais une proposition inattendue, surprise. J'ai pas d'écho aujourd'hui de savoir si elle a été entendue et même considérée comme sérieuse par les personnes de l'ONF. Mais par exemple, de considérer qu'une des solutions effectivement pour au moins attaquer le problème, ne pas se contenter de le constater, c'était de libérer ces espaces aujourd'hui réservés finalement aux hannetons que sont les couperases en enlevant les grillages qui les entourent. Parce qu'en fermant justement ces zones-là, en les engrillageant complètement pour les protéger du cerf, pour des plantes qui, de toute façon, vont être bouffées par les hannetons. Les racines des jeunes plants de feuillus sont bouffées par les hannetons, donc c'est même pas les cerfs qui ont le temps de les bouffer, c'est avant même que ça sorte de terre, les hannetons ont déjà bouffé. Donc en fait, on superpose les calamités. Bref, d'enlever tous les grillages pour permettre justement aux principaux prédateurs des hannetons qui vont aller fouiller le sol, les sangliers, les renards, les blaireaux, d'aller se nourrir des larves avant qu'elles ne sortent du sol. Parce qu'une fois qu'elles sont sorties du sol et qu'elles sont en vol pendant 2 semaines, on dit que les chauves-souris, on dit que les mésanges, par exemple, sont aussi des prédateurs des chauves-souris, des hannetons, pardon. Mais le volume en est tel et le nombre de prédateurs qui sont capables d'attaquer la ressource est tellement faible. Les chiroptères, les chauves-souris, il y en a très très peu en forêt de Compiègne. Les mésanges, certes, il y en a beaucoup, mais pas évidemment par rapport au niveau attendu. Donc simplement, je fais une proposition de dire enlever tous les grillages avant le prochain envol de hannetons qui est prévu en 2024, puisque vous l'avez compris, il y a une saisonnalité biologique tous les 4 ans. Donc le prochain gros envol, on sait que c'est 2024, c'est clair, ça sera entre avril et mai 2024, qu'on aura des millions de hannetons en forêt de Compiègne. Avant 2024, libérer les parcelles, enlever les engrillagements, laisser faire le nettoyage par les sangliers, les renards, les blaireaux et tous les petits animaux qui vont pouvoir se nourrir des larves, les oiseaux bien évidemment, et vous allez travailler sur la résolution d'un problème en ayant en plus un usage totalement naturel de la ressource qui est là, qui sont des animaux mammifères par exemple.
Aura, dernière question avant de clore cette émission. On était ensemble pendant une heure. On rappelle le nom du livre, il s'appelle La forêt dans tous ses états. Et vous pouvez aller faire un tour sur le Kiss Kiss Bank Bank pour aller participer à l'achat ou non. Alors du coup, il faut que Kiss Kiss Bank Bank, il faut que les 100 exemplaires soient vendus pour pouvoir lancer la production.
Oui, c'est le principe de ces campagnes participatives, c'est que la participation, c'est un mot important, et que l'engagement effectivement des clients potentiels du bouquin, des lecteurs futurs du bouquin, doit être fait en amont du bouquin, donc participez effectivement au maximum à la campagne. N'attendez pas qu'elle arrive dans ces 2-3 derniers jours pour vous dire j'y vais pas. C'est un engagement, comme dans tous les projets de financement participatif, et celui qui vise à soutenir Radiographite est également important, comme l'a dit Nicolas. Donc il faut aller dans ce sens-là, il faut participer, et il y aura plein d'occasions de se rencontrer, de faire des signatures, des dédicaces, des rencontres, des débats autour de la forêt, mais ça sera évidemment tellement mieux si vous avez le bouquin entre les mains, et si vous pouvez réagir sur les propositions ou sur les avis que je peux émettre, ça sera beaucoup plus riche pour faire avancer la question.
Et en plus, il y a des très belles photos à l'intérieur.
Merci. J'ai effectivement fait un tri hyper sélectif parce que j'en ai des dizaines de milliers sur mes disques durs de forêt, de photos de forêt. Mais à chaque fois, l'objectif, c'était surtout pas qu'elles soient belles, mais qu'elles documentent bien le sujet. Donc il y a plus de 150 photos, effectivement, dans le livre.
Oran,
est-ce que tu as un retour de l'ONF sur le livre ?
Non, j'ai pas de retour de l'ONF. Je l'attends pas plus que cela.
Est-ce qu'ils vont doter les agents de l'ONF à chaque fois qu'ils vont rentrer à l'ONF de ton livre ?
Je crains que non. Je crains que non. Non pas qu'individuellement ils soient pas intéressés, et je pense qu'ils vont aussi apprendre des choses, parce que pour les échos que j'ai depuis 3-4 ans à l'occasion de toutes les réunions avec l'ONF, je m'aperçois qu'en fait ils connaissent pas tout à fait le sujet non plus complètement. En fait, ils sont dans une armoire dogmatique dans laquelle on leur passe des éléments de langage, dans lequel on les enjoint de les reproduire, de les déclamer, de faire face en forêt à toutes les interactions qu'ils ont avec les citoyens, et parfois ça se passe pas bien parce qu'ils sont mal appréciés. Ça, c'est bien bien dommage à titre individuel, je me plains toujours de cela. Il faut respecter ces personnes individuellement, il n'y a pas de raison de leur en vouloir sur la gestion de l'ONF, ça dépend pas d'eux. Mais donc je ne pense pas effectivement avoir de retour très favorable, mais je suis limpide et lucide. Toutes les informations que je donne sont documentées, il n'y a aucun fait qui n'est pas vérifié. Beaucoup des sources se viennent de leur propre plan de gestion, document de référence sur la forêt de Compiègne. Donc je n'apporte aucun élément qui peut être contesté sur ce qu'ils font en forêt aujourd'hui.
232 pages d'enquête au format 29-21, c'est ça le format un peu de ce bouquin.
Oui, format A4. Oui.
Est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors là, aujourd'hui, on peut l'avoir à la Librairie des Signes. Est-ce qu'on peut le retrouver dans d'autres magasins moins indépendants ? Est-ce qu'on peut le retrouver à la FNAC ? Est-ce qu'on peut le retrouver chez Cultura ou ce genre de choses ?
Alors, je suis justement passé à la FNAC et chez Cultura pour voir la possibilité de mettre le livre en dépôt. Et là, je dois évidemment revenir à la source, parce que Camille, la gérante de la Librairie des Signes, est une amie, qu'elle suit le projet, qu'elle m'aide beaucoup, et elle commercialise le bouquin sans aucune marge. Donc chaque centime qui revient de la vente du bouquin me revient, et j'ai fait un gros investissement sur le projet. Ça n'est malheureusement pas le cas avec les enseignes locales qui veulent évidemment leur commission sur la vente. Donc voilà, en totale sincérité, ma fidélité est une fidélité amicale mais aussi économique à la librairie des signes. Donc pour l'instant non, c'est après de la librairie des signes ou auprès de moi directement, donc via la page Facebook que vous pourrez trouver le bouquin prochainement.
C'est surtout que souvent pour sortir du cercle des gens qu'on connaît, il faut pouvoir être référencé dans des... Voilà, déjà c'est référencé à la BNF, t'as envoyé un exemplaire à la BNF, mais c'est toujours si on veut sortir de notre région, de notre ville, etc. Donc là, les meilleurs ambassadeurs, c'est les lecteurs qui pourront le diffuser dans la France entière, dans le monde entier et dans l'Europe, quoi.
Et là, je suis face à une nouvelle question. Le mets-je sur Amazon ou ne le mets-je pas sur Amazon ? Voilà. Et évidemment, déontologiquement, j'ai un peu de mal à franchir cette étape. Mais alors, pour le coup, il n'y a aucun frein à l'entrée pour mettre un livre en auto-édition sur Amazon, alors que sur la plateforme, par exemple, de la Fnac, les freins sont considérables si on n'a pas un éditeur.
Et un éditeur, s'il y a un éditeur qui sonne à ta porte, tu y réfléchirais ou tu veux garder l'entièreté du bouquin ?
Alors, je veux juste un éditeur qui croit réellement au projet, qui est prêt réellement à faire du boulot. Parce que j'en ai rencontré des éditeurs qui m'ont juste présenté le devis en me disant, bah voilà, si vous voulez être référencé, ça va coûter tant. Donc si c'est juste pour prendre, entre guillemets, une commission sans s'engager sur le fond du projet et sans avoir la légitimité pour m'aider, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas un âge où je cherche à gagner ma vie avec ce bouquin-là et c'est surtout une déclaration d'amour à la forêt. Donc je suis prêt à m'engager également économiquement pour que cette déclaration reste sincère.
Et pour les auditeurs qui veulent l'emprunter à la bibliothèque, il est disponible aux bibliothèques de Compiègne ?
Alors, Antoine Torrens, le directeur de la bibliothèque de Compiègne, est un grand partenaire. Il a été d'ailleurs le correcteur du livre, donc il a fait un énorme travail de collaboration avec moi pour le projet. La ville de Compiègne en a acquis 25 exemplaires, donc c'est quand même une démarche importante et un engagement qu'avait pris le maire de Compiègne, et il a été jusqu'au bout de cet engagement. Donc je ne doute pas que dans cette dotation, effectivement, on le trouvera prochainement. Mais là aussi, je publierai, je te le ferai savoir, l'information quand effectivement il sera disponible auprès dans les bibliothèques de Compiègne.
Merci beaucoup Bernard Debargue. On rappelle le titre La forêt dans tous ses états, enquête indépendante sur la forêt domaniale de Compiègne. On va se quitter avec un morceau musical. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce groupe que tu connais un peu, puisque le guitariste du groupe PAL, qui est un groupe aujourd'hui strasbourgeois, le guitariste, tu le connais un peu ?
Oui, c'est mon fils. C'est mon fils aîné. On a une petite famille de musiciens. Vous avez peut-être déjà entendu ou su l'existence d'un pianiste qui s'appelle Lucas. C'est mon neveu, qui est aujourd'hui une vedette internationale dans le piano, qui est un type fantastique. Et ben, y en a un autre qui est pas mal aussi, qui est guitariste de punk rock du groupe Pels à Strasbourg, et qui viennent de sortir leur premier EP. Et ils cartonnent là-bas dans l'Est. Et j'espère qu'on les verra très rapidement sur scène dans le Compiénois.
Bon, pour être plus détaillé, hein, c'est plus du post-rock, mais bon, c'est pas très grave, on va garder le punk-rock. On a gardé ce morceau-là en fin d'émission, c'est un morceau qui est rentré dans la prog de Graphite. On avait rentré un morceau qui durait 11 minutes, celui-là on l'a sorti, on a mis le plus court. Vous allez voir, ça envoie pour la matinée. Merci Oran d'avoir participé à cette émission. Quels sont les prochains reportages que tu as prévus ?
Alors vendredi, premier reportage de l'année, ça sera sur l'exposition L'autre camp, qui est en ce moment au mémorial de l'internement et de la déportation de Compiègne.
Sur les prisonniers de la guerre française en 40, c'est ça ?
Exactement, ouais, sur les prisonniers militaires en 1940.
Merci beaucoup, bonne écoute. Et puis on rappelle également qu'il y a l'appel aux dons de Graphite. Allez faire un tour sur le www.graphite.net. On a un peu dépassé. Allez, bonne écoute et bah, du coup, bonne journée sur Graphite.